Chapitre 18. Ce qu'on peut appeler loi et police civile entre les sauvages, comment ils traitent et reçoivent humainement leurs amis qui les vont visiter, et les pleurs et discours joyeux que les femmes font à leur arrivée et bienvenue. Quant à la police de nos sauvages, c'est une chose presque incroyable et qui ne se peut dire sans faire honte à ceux qui ont les lois divines et humaines comme étant seulement conduits par leur naturel, quelque corrompus qu'ils soient, s'entretiennent et vivent si bien en paix les uns avec les autres. J'entends toutefois chacune nation entre elle-même, ou celles qui sont alliées ensemble, car, quant aux ennemis, il a été vu en son lieu comme ils sont étrangement traités. Que si cependant il advient que quelques-uns querellent, ce qui se fait si peu souvent que durant près d'un an que j'ai été avec eux je ne les ai jamais vus débattre que deux fois, tant s'en faut que les autres tâchent de les séparer, ni d'y mettre la paix, qu'au contraire, quand les contestants se devraient crever les yeux l'un l'autre, sans leur rien dire, ils les laisseront faire. Toutefois, si aucun n'est blessé par son prochain, et que celui qui a fait le coup soit appréhendé, il en recevra autant au même endroit de son corps par les proches parents de l'offensé, et même si la mort s'ensuit, ou qu'il soit tué sur le champ, les parents du défunt feront semblablement perdre la vie au meurtrier. Tellement que, pour le dire en un mot, c'est vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, etc. Mais comme j'ai dit, cela se voit fort rarement entre eux. Touchant les immeubles de ce peuple, consistant en maisons et, comme j'ai dit ailleurs, en beaucoup plus de très bonnes terres qu'il n'en faudrait pour les nourrir, quant au premier, se trouvant tel village entre eux où il y a de 5 à 600 personnes, encore que plusieurs habitants en une même maison, tant il y a que chaque famille, sans séparation toutefois de choses qui puissent empêcher qu'on ne voit d'un bout à l'autre de ces bâtiments, ordinairement longs de plus de 60 pas, ayant son rang à part, le mari a ses femmes et ses enfants séparés. Sur quoi faut noter, ce qui est aussi étrange en ce peuple, que les Brésiliens ne demeurant ordinairement que 5 ou 6 mois en un lieu, emportant, puis après les grosses pièces de bois et grandes herbes de pindo de quoi leurs maisons sont faites et couvertes, ils changent ainsi souvent de place en place leur village, lesquels cependant retiennent toujours leurs anciens noms, de manière que nous en avons quelquefois trouvé d'éloignés des lieux où nous avions été auparavant d'un quart ou demi lieue. Ce qui peut faire juger à chacun, puisque leurs tabernacles sont si aisés à transporter, que non seulement ils n'ont point de grands palais élevés, comme quelqu'un a écrit qu'il y a des Indiens du Pérou qui ont leur maison de bois si bien bâtie qu'il y a des salles longues de 150 pas, larges de 80, mais aussi que nul de cette nation des Tuyupinambu dont je parle ne commence logis ni bâtiment, qu'il ne puisse voir achever, voir faire et défaire, plus de 20 fois en sa vie, si toutefois il vient en âge d'homme. Que si vous leur demandez pourquoi ils remuent si souvent leur ménage, ils n'ont autre réponse, sinon de dire que, changeant ainsi d'air, ils s'en portent mieux, et que s'ils faisaient autrement que leurs grands-pères l'ont fait, ils mourraient soudainement. Pour l'égard des champs et des terres, chaque père de famille en aura bien aussi quelques arpents à part, qu'il choisit où il veut à sa commodité pour faire son jardin et planter ses racines. Mais du reste, de ce temps soucié de partager leurs héritages, moins plaidé pour planter des bornes afin d'en faire les séparations, ils laissent faire cela aux hautereux avaricieux et chicaneurs de par-de-ça. Quant à leurs meubles, j'ai déjà dit en plusieurs endroits de cette histoire quels ils sont, mais encore, afin de ne rien laisser en arrière de ce que je sais appartenir à l'économie de nos sauvages, je veux premièrement ici déclarer la méthode que leurs femmes tiennent à filer leur coton. De quoi elles se servent tant à faire des cordons qu'autre chose, et nommément les dites desquelles en second lieu je déclarerai aussi la façon. Voici donc comment elles en usent. C'est qu'après, comme j'ai dit ci-dessus décrivant l'arbre qui le porte, qu'elles l'ont tiré des tousseaux où il croît, l'ayant un peu éparpillé avec les doigts sans autrement le carder, le tenant par petits monceaux auprès d'elles, soit à terre ou sur quelque autre chose, car elles n'usent pas de quenouilles comme les femmes de par-de-ça, leur fuseau étant un bâton rond, non plus gros que le doigt et de longueur environ un pied, qu'un tranchoir de bois et de même épaisseur, attachant le coton au plus long bout de ce bâton qui traverse, en le tournant, puis après sur leur cuisse et le lâchant de la main comme les filandières font leur fusée, ce rouleau virevoltant ainsi sur le côté comme une grande pirouette parmi leur maison ou autre place, est le fil non seulement en cette façon de gros filets pour faire des lits, mais aussi j'en avais apporté en France d'aussi déliés et retors par ces femmes sauvages qu'en ayant fait piquer un pourpoint de toile blanche, chacun qui le voyait estimait que ce fut fine soie perlée. Touchant les lits de coton, qui sont appelés inis par les sauvages, leurs femmes ayant des métiers de bois, non pas à plat comme ceux de nos tisserands, ni avec tant d'engins, mais seulement élevés devant elles de leur hauteur, après qu'elles ont ourdi à leur mode, commençant à tristre par le bas, elles en font les uns en matière de rettes ou filets à pêcher, et les autres, plus serrés comme gros canevas. Et au reste, étant ces lits pour la plupart longs de 4, 5 ou 6 pieds, et d'une brasse de large, plus ou moins, tous ont deux boucles aux deux bouts, faites aussi de coton, auxquelles les sauvages lient des cordes pour les attacher et pendre en l'air à quelques pièces de bois mises en travers, expressément pour cet effet, en leur maison. Que si aussi ils vont à la guerre, ou qu'ils ne couchent par les bois à la chasse, ou sur le bord de la mer ou des rivières à la pêcherie, ils les pendent lors entre deux arbres. Et pour achever de tout dire sur cette matière, quand ces lits de coton sont salis, soit de la sueur des personnes ou de la fumée de tant de feux qu'on fait continuellement dans les maisons lesquelles ils sont pendus, ou autrement, les femmes américaines, cueillant par les bois un fruit sauvage de la forme d'une citrouille plate, mais beaucoup plus gros, tellement que c'est tant qu'on peut porter d'un en la main, le découpant par pièces et le faisant tremper dans de l'eau, en quelques grands vaisseaux de terre, battant puis après cela avec des bâtons de bois, elles en font sortir de gros bouillons d'écume, laquelle, leur servant de savon, elles en font ces lits aussi blancs que neige ou drap de foulon. Au reste, je me rapporte à ceux qui en ont fait l'expérience s'il n'y fait pas meilleur coucher, principalement en été, que sur nos lits communs. Et même si c'est sans raison que j'ai dit en l'histoire de Sancerre qu'en temps de guerre cela est, sans comparaison, plus aisé de pendre en cette façon des linceuls par les corps de garde pour reposer une partie des soldats qui dorment pendant que les autres veillent, qu'à l'accoutumée se vautrer par-dessus des paillasses, où en salissant les habillements, on ne se remplit pas seulement de vermine, mais aussi, quand se vient à se lever pour faire la faction, on a les côtés tout cassés des armes, lesquels on est contraint d'avoir toujours à la ceinture, ainsi que nous les avons eus étant assiégés dans cette ville de Sancerre, où presque sans intervalle, l'ennemi, un an durant, n'a bougé de nos portes. Or, pour faire un sommaire des autres meubles de nos Américains, les femmes, lesquelles, entre elles, ont toute la charge du ménage, font force canne et grand vaisseau de terre pour faire tenir les breuvages, dits caouins, semblablement des pots à mettre cuir, tant de façon ronde qu'ovale. Des poêles, moyennes et petites, plats et autres vaisselles de terre, combien qu'elles ne soient guère unies par le dehors, et néanmoins si bien polies et comme plombées par le dedans de certaines liqueurs blanches qui s'endurcissent, qu'il n'est possible aux potiers de part de ça de mieux accoutrer leur poterie de terre. Même ces femmes, détrempant certaines couleurs grisâtres propres à cela, font avec des pinceaux mille petites gentillesses comme guilloschi, la d'amour et autres dolleries au-dedans de ces vaisselles de terre, principalement en celles où on tient la farine et les autres viandes, de façon qu'on en est servi assez proprement, voire, dirais plus honnêtement, que ne sont ceux qui usent par-de-ça de vaisselle de bois. Vrai est qu'il y a cela de défaut en ces peintresses américaines, c'est qu'ayant fait avec leurs pinceaux ce qui leur sera venu en la fantaisie, si vous les priez puis après d'en faire de la même sorte, parce qu'elles n'ont point d'autre projet, portrait, ni crayon que la quintessence de leur cervelle qui trotte, elles ne sauraient contrefaire le premier ouvrage, tellement que vous n'en verrez jamais deux de la même façon. Au surplus, comme j'ai touché ailleurs, nos sauvages ont des courges et autres fruits mis partis et creusés, de quoi ils font tant leurs tasses à boire qu'ils appellent couis, d'autres petits vases dont ils se servent à autre usage. Semblablement, certaines sortes de grands et petits coussins et petits paniers faits et tissus fort proprement, les uns de joncs et les autres d'herbes jaunes, comme gli ou paille de froment, lesquels ils nomment panacou, et tiennent la farine et ce qui leur plaît dedans. Touchant leurs armes, habits de plumes, l'engin nommé par eux maraca et autres leurs ustensiles, parce que j'en ai fait la description en un autre endroit, à cause de brièveté, je n'en ferai ici aucune mention. Voilà donc les maisons de nos sauvages, faites et meublées, par quoi il est maintenant temps de les aller voir au logis. Pour donc prendre cette matière un peu de haut, combien que nos touyupinambous reçoivent fort humainement les étrangers amis qui les vont visiter, si est-ce néanmoins que les Français et autres de par-deçà qui n'entendent pas leur langage se trouvent du commencement merveilleusement étonnés parmi eux. Et de ma part, la première fois que je les fréquentais, qui fut 3 semaines après que nous fûmes arrivés en l'île de Villegagnon, qu'un truchement me mena avec lui en terre ferme en 4 ou 5 villages. Quand nous fûmes arrivés au premier, nommé Yabourassi en langue du pays et par les Français Pépin, à cause d'un navire qui y chargea une fois le maître duquel s'appelait ainsi, qui n'était qu'à 2 lieues de notre fort. Me voyant tout un continent environné de sauvages, lesquels me demandaient « Marapédérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérér À quoi pour lors, je n'entendais que le hôte allemand. Et du reste, l'un ayant pris mon chapeau, qu'il mit sur sa tête, l'autre mon épée et ma ceinture, qu'il ceignit sur son corps tout nu, l'autre ma casaque, qu'il vêtit, eux, dis-je, m'étourdissant de leurs crieries et courant de cette façon parmi les villages avec mes hardes, non seulement je pensais avoir tout perdu, mais aussi je ne savais où j'en étais. Mais comme l'expérience m'a montré plusieurs fois depuis, ce n'était que faute de savoir leur manière de faire, car, faisant le même à tous ceux qu'ils n'ont point encore vus, après qu'ils se sont ainsi joués des besognes d'autrui, ils rapportent et rendent le tout à ceux à qui elles appartiennent. Là-dessus, le truchement m'ayant averti qu'ils désiraient surtout de savoir mon nom, mais que de leur dire Pierre, Guillaume ou Jean, eux ne le pouvant prononcer ni retenir, comme de fait au lieu de dire Jean, ils disaient Nian, il me fallait accommoder de leur nommer quelque chose qui leur fût connu. Cela, comme il me dit, étant si bienvenu à propos que mon surnom, Léry, signifie une huître en leur langage. Je leur dis que je m'appelais Léry Oussou, c'est-à-dire une grosse huître. De quoi eux, se tenant bien satisfaits, avec leur admiration, se prenant à rire, dire « Vraiment, voilà un beau nom !» et n'avions point encore vu de Maïr, c'est-à-dire de Français, qui s'appelât ainsi. Et de fait, je puis assurément dire que jamais Circé ne métamorphosa homme en une si belle huître, ni que discourut si bien Ulysse que j'ai depuis ce temps-là fait avec nos sauvages. Sur quoi, faut noter qu'ils ont la mémoire si bonne qu'aussitôt que quelqu'un leur a une fois dit son nom, quand, par la manière de dire, ils seraient sans après sans le revoir, ils ne l'oublieront jamais. Je dirai tantôt les autres cérémonies qu'ils observent à la réception de leurs amis qui les vont voir. Mais pour le présent, poursuivant à réciter une partie des choses notables qui m'advinrent en mon premier voyage parmi les Touyoupinambous, le truchement et moi, qui de ce même jour, passant plus outre, fûmes couchés en un autre village nommé Euramiri, les Français l'appellent Gauzé à cause d'un truchement ainsi nommé qui s'y était tenu, trouvant sur le soleil couchant que nous y arrivâmes, les sauvages dansant et achevant de boire le kawin d'une prisonnier qu'ils avaient tué il n'y avait pas 6 heures, duquel nous vîmes les pièces sur le boucan, ne demandez pas si ce commencement je fus étonné de voir telle tragédie. Toutefois, comme vous entendrez, ce ne fut rien au prix de la peur que j'eus bientôt après. car comme nous fûmes entrés en une maison de ce village, où, selon la mode du pays, nous nous assîmes chacun dans un lit de coton tendu en l'air, après que les femmes, à la manière que je dirai ci-après, eurent pleuré, et que le vieillard, maître de la maison, eut fait sa harangue à notre bienvenue, le Truchement, à qui non seulement ces manières de faire des sauvages n'étaient pas nouvelles, mais qui au reste aimait aussi bien à boire et à câouiner, que, sans me dire un seul mot ni m'avertir de rien, s'en allant vers la grosse troupe de ses danseurs, me laissa là, avec quelques-uns, tellement que moi qui étais là, ne demandant qu'à reposer, après avoir mangé un peu de farine de racine et d'autres viandes qu'on nous avait présentées, je me renversais et couchais dans le lit de coton sur lequel j'étais assis. Mais autre qu'à cause du bruit que les sauvages, dansant et sifflant toute la nuit en mangeant ce prisonnier, firent à mes oreilles, je fus bien réveillé, encore l'un d'eux, avec un pied, dit celui, cuit et boucané qu'il tenait en sa main, s'approchant de moi, me demandant, comme je sus depuis, car je ne l'entendais pas alors, si j'en voulais manger, par cette contenance me fit une telle frayeur qu'il n'en faut pas demander si j'en perdis toute envie de dormir. Et de fait, pensant véritablement par tel signal et montre de cette chair humaine qu'il mangeait, qu'en me menaçant, il me dit et voulut faire entendre que je serais tantôt ainsi accoutré. Joint que, comme un doute en engendre un autre, je soupçonnais tout aussitôt que le Truchement de propos délibérés m'ayant trahi, m'avait abandonné et livré entre les mains de ces barbares, si j'eusse vu quelle couverture pour pouvoir sortir et m'enfuir de là, je ne m'y fusse pas faim. Mais me voyant de toutes parts environné de ceux desquels ignorant l'intention, car comme vous aurez, ils ne pensaient rien de moins qu'à me faire mal, je croyais fermement et m'attendais devoir être bientôt mangé en invoquant Dieu en mon cœur toute cette nuit-là. Je laisse à penser à ceux qui comprendront bien ce que je dis et qui se mettront à ma place si elle me sembla longue. Or, le matin venu, que mon Truchement, lequel en d'autres maisons du village avec les friponniers de sauvages avait riblé toute la nuit, me vint retrouver, me voyant, comme il me dit, non seulement blême et fort défait de visage, mais aussi presque en fièvre, il me demanda si je me trouvais mal et si je n'avais pas bien reposé, à quoi, encore tout éperdu que j'étais, lui ayant répondu en grande colère qu'on m'avait voirement bien gardé de dormir, et qu'il était un mauvais homme de m'avoir ainsi laissé parmi ces gens que je n'entendais point, ne me pouvant rassurer, je le priai qu'en diligence nous nous ôtassions de là. Toutefois, lui là-dessus, m'ayant dit que je n'eusse point de crainte et que ce n'était pas à nous à qui on en voulait, après qu'il eut le tout récité aux sauvages, lesquels, s'éjouissant de ma venue, me pensant caressé, n'avaient bougé d'auprès de moi toute la nuit, eux ayant dit qu'ils s'étaient aussi aucunement aperçus que j'avais eu peur d'eux, dont ils étaient bien maris, ma consolation fut, selon qu'ils sont grands gosseurs, une risée qu'ils firent de ce que, sans y penser, ils me l'avaient baillé si belle. Le Truchement et moi fûmes encore de là en quelques autres visages, mais me contentant d'avoir récité ce que dessus pour échantillon de ce qui m'advint en mon premier voyage parmi les sauvages, je poursuivrai à la généralité. Pour donc déclarer les cérémonies que les Tuyupinambu observent à la réception de leurs amis qui les vont visiter, il faut en premier lieu, sitôt que le voyageur est arrivé en la maison du Musaka, c'est-à-dire bon père de famille qui donne à manger aux passants, qu'il aura choisi pour son hôte, ce qu'il faut faire en chacun village où on fréquente, et sur peine de le fâcher, quand on y arrive, n'allez pas premièrement ailleurs. Que s'asseyant dans un lit de coton pendu en l'air, il y demeure quelque temps, sans dire un mot. Après cela, les femmes venant à l'entour du lit, s'accroupissant les fesses contre terre et tenant les deux mains sur leurs yeux, en pleurant de cette façon la bienvenue de celui dont on sera question, elles diront mille choses à sa louange. Comme, par exemple, « Tu as pris tant de peine à nous venir voir. Tu es bon, tu es vaillant. » Et si c'est un Français ou un autre étranger de par-deçà, elles ajouteront « Tu nous as apporté tant de belles besognes dont nous n'avons point encore en ce pays. » Bref, comme j'ai dit, elles, en jetant des grosses larmes, tiendront plusieurs tels propos d'applaudissements et flatteries. Que si, au contraire, le nouveau venu qui est assis dans le lit leur veut agréer, faisant bonne mine de son côté, s'il ne veut pleurer tout à fait, comme j'en ai vu de notre nation, qui, voyant la braverie de ses femmes auprès d'eux, était si veau que d'en venir jusque-là, pour le moins, en leur répondant, jetant quelques soupirs, faut-il qu'ils en fassent semblant. Cette première salutation, ainsi faite de bonne grâce par ces femmes américaines, le moussaka, c'est-à-dire vieillard, maître de la maison, lequel aussi de sa part, comme vous voyez en la figure, s'occupant à faire une flèche ou autre chose, aura été un quart d'heure sans faire semblant de vous voir, caresse fort contraire à nos embrassements, accolades, baisements et touchements à la main à l'arrivée de nos amis, venant, lors, à vous, usera premièrement de cette façon de parler. « Ereyoube » c'est-à-dire « Es-tu venu ?» Puis « Comment te portes-tu »« Que demandes-tu » etc. À quoi il faut répondre, selon que verrez ci après au colloque de leur langage. Cela fait, il vous demandera si vous voulez manger, que si vous répondez que oui, il vous fera soudain apprêter et apporter dans de la belle vaisselle de terre tant de la farine, qu'ils mangent au lieu du pain, que des venaisons, volailles, poissons et autres viandes qu'il aura. Mais, parce qu'ils n'ont pas de table, bande ni escabelle, le service se fera à belle terre devant vos pieds. Quant au breuvage, si vous voulez du caouin et qu'il en ait de fait, il vous en baillera aussi. Semblablement, après que les femmes ont pleuré auprès du passant, afin d'avoir de lui des peignes, miroirs ou petites pattes nôtres de verre qu'on leur porte pour les mettre alentour de leurs bras, elles lui apporteront des fruits ou autres petits présents des choses de leur pays. Que si au surplus on veut coucher au village où on est arrivé, le vieillard non seulement fera tendre un beau lit blanc, mais encore, outre cela, combien qu'il ne fasse pas froid en leur pays, à cause de l'humidité de la nuit et à leur mode, il fera faire 3 ou 4 petits feux à l'entour du lit, lesquels seront souvent rallumés la nuit avec certains petits vantaux qu'ils appellent tatapequa, faits de la façon des contenances que les dames de par-deçà tiennent devant elles auprès du feu, de peur qu'ils ne leur gâtent la face. Mais puisqu'en traitant de la police des sauvages, je suis venu à parler du feu, lequel ils appellent tata, et la fumée tatatin, je veux aussi déclarer l'invention gentille et inconnue par-deçà, qu'ils ont d'en faire quand il leur plaît, chose non moins émerveillable que la pierre d'Écosse, laquelle, suivant le témoignage de celui qui a écrit des singularités du dit pays, à cette propriété qu'étant dans les étoupes ou dans de la paille sans autre artifice, elle allume le feu. D'autant donc qu'aimant fort le feu, il ne demeure guère en un lieu sans en avoir, principalement la nuit, qu'il craigne merveilleusement d'être surpris des gnanes, c'est-à-dire du malin esprit, lequel, comme j'ai dit ailleurs, les bat et tourmente souvent. Soit qu'il soit par les bois, à la chasse, ou sur le bord des eaux, à la pêcherie, ou ailleurs, par les champs, au lieu que nous nous servons à cela de la pierre et du fusil dont ils ignorent l'usage, ayant en récompense en leur pays 2 certaines espèces de bois, dont l'un est presque aussi tendre que s'il était à demi pourri, et l'autre, au contraire, aussi dur que celui de quoi nos cuisiniers font des lardoirs, quand ils veulent allumer du feu, il les accommode de cette sorte. Premièrement, après qu'ils ont apprimé et rendu aussi pointu qu'un fuseau par l'un des bouts un bâton de ce dernier de la longueur d'environ 1 pied, plantant cette pointe au milieu d'une pièce de l'autre que j'ai dit être fort tendre, laquelle ils touchent tout à plat contre terre ou la tiennent sur un tronc ou grosse bûche en façon de potence renversée. Tournant puis après fort soudainement ce bâton entre les paumes de leurs mains, comme s'ils voulaient forer et percer la pièce de dessous de part en part, il advient que de cette soudaine et froide agitation de ces 2 bois qui sont ainsi comme entrefichés l'un dans l'autre, il sort non seulement de la fumée, mais aussi une telle chaleur qu'ayant du coton ou des feuilles d'arbres bien sèches toutes prêtes, ainsi qu'il faut avoir par-deçà le drapeau brûlé ou autre amorce près du fusil, le feu s'y en prend si bien que j'assure ceux qui m'en voudront croire en avoir moi-même fait de cette façon. Non pas cependant que pour cela je veuille dire, moins croire ou faire accroire, ce que quelqu'un a mis en ses écrits, à savoir que les sauvages de l'Amérique, qui sont ceux dont je parle à présent, avant cette invention de faire feu, séchaient leur viande à la fumée. Car, tout ainsi que je tiens cette maxime de physique tournée en proverbe être très vraie, à savoir qu'il n'y a point de feu sans fumée, aussi par le contraire estimais-je celui n'être pas bon naturaliste qui nous veut faire accroire qu'il y a de la fumée sans feu. J'entends de la fumée, laquelle, comme celui dont je parle veut donner à entendre, puisse cuire les viandes, tellement que, si pour solution il voulait dire qu'il a entendu parler des vapeurs et exhalations, encore qu'on lui accorde qu'il y en ait de chaudes, tant il y a qu'attendu que tant s'en faut qu'elle les puisse sécher, qu'au contraire, fût chair ou poisson, elle les rendrait plutôt moites et humides. La réponse sera que cela est de moquer du monde. Partant, puisque cet auteur, tant en sa cosmographie qu'ailleurs, se plaint si fort et si souvent de ceux lesquels ne parlant pas à son gré des matières qu'il touche, il dit n'avoir pas bien lu ses écrits, je prie les lecteurs d'y bien noter le passage férial que j'ai compté de sa nouvelle chaude et saugrenue fumée, laquelle je lui renvoie en son cerveau de vent. Retournons donc à parler du traitement que les sauvages font à ceux qui les vont visiter. Après qu'en la manière que j'ai dit leurs hôtes ont bu et mangé et se sont reposés ou ont couché en leur maison, s'ils sont honnêtes, ils baillent ordinairement des couteaux ou des ciseaux ou bien des pincettes à arracher la barbe aux hommes, aux femmes, des peignes et des miroirs, et encore, aux petits garçons, des hameçons à pêcher. Que si au reste on a affaire de vivres ou autre chose de ce qu'ils ont, ayant demandé que c'est qu'ils veulent pour cela, quand on leur a baillé ce de quoi on est convenu, on le peut emporter et s'en aller. Au surplus, parce que comme j'ai dit ailleurs que n'ayant chevaux ni ânes, ni autres bêtes qui portent ou charrient en leur pays, la façon ordinaire étant d'y aller à beaux pieds sans lance, si les passants étrangers se trouvent là, présentant un couteau ou autre chose aux sauvages, prompt qu'ils sont à faire plaisir à leurs amis, ils s'offriront pour les porter. Comme de fait, durant que j'étais par-delà, il y en a eu tels qui, nous ayant mis la tête entre les cuisses et les jambes pendantes sur leur ventre, nous ont ainsi porté sur leurs épaules plus d'une grande lieue sans se reposer, de façon que, si pour les soulager, nous les voulions quelquefois faire arrêter, eux, se moquant de nous, disaient en leur langage « Et comment ? Pensez-vous que nous soyons des femmes, ou si lâches et faibles de cœur que nous puissions défaillir sous le fait ?» Plutôt, me dit une fois un, qui m'avait sur son col, « Je te porterai tout un jour sans cesser d'aller. » Tellement que nous autres, de notre côté, riant à gorge déployée sur ces traquenards à deux pieds, les voyant si bien délibérés, en leur applaudissant et mettant encore, comme on dit, davantage le cœur au ventre, leur disions « Allons donc toujours !» Quant à leur charité naturelle, en se distribuant et faisant journellement présents les uns aux autres des venaisons, poissons, fruits et autres biens qu'ils ont en leur pays, ils l'exercent de telle façon que non seulement un sauvage, par manière de dire, mourrait de honte s'il voyait son prochain ou son voisin auprès de soi avoir faute de ce qu'il a en sa puissance, mais aussi, comme je l'ai expérimenté, ils usent de même libéralité envers les étrangers leurs alliés. Pour l'exemple de quoi, j'alléguerai que cette fois, ainsi que j'ai touché au dixième chapitre, que deux Français et moi, nous étant égarés par les bois, quidam être dévorés d'un gros et épouvantable lézard, ayant, outre cela, l'espace de deux jours et d'une nuit que nous demeurâmes perdus, enduré grand faim, nous étant finalement retrouvés en un village nommé Pano, où nous avions été d'autrefois, il n'est pas possible d'être mieux reçus que nous fûmes des sauvages de ce lieu-là. Car en premier lieu, nous ayons ouï raconter les maux que nous avions endurés, même le danger où nous avions été d'être non seulement dévorés des bêtes cruelles, mais aussi d'être pris et mangés des margaillas, nos ennemis et les leurs, de la terre desquelles, sans y penser, nous nous étions approchés bien près, parce que, dis-je, qu'outre cela, passant par les déserts, les épines nous avaient bien fort égratignés, eux, nous voyant en tel état, en prirent si grand pitié que les réceptions hypocrites de ceux de par-de-ça, qui, pour consolation des affligés, n'usent que du plat de la langue, et bien éloignés de l'humanité de ces gens, lesquels néanmoins nous appelons barbares. Pour donc venir à l'effet, après qu'avec de belles eaux claires qu'ils furent quérir exprès, ils eurent commencé par là, qui me fit ressouvenir de la façon des anciens de laver les pieds et les jambes de nous trois Français qui étions assis chacun dans son lit à part, les vieillards, lesquels dès notre arrivée avaient donné ordre qu'on nous apportât à manger, même avaient commandé aux femmes qu'en diligence elles fissent de la farine tendre, de laquelle, comme j'ai dit ailleurs, j'aimerais autant manger que du mollet de pain blanc tout chaud, nous voyant un peu rafraîchis, nous firent incontinent servir à leur mode de force bonne viande, comme venaison, volaille, poissons et fruits exquis, dont ils ne manquent jamais. Davantage, quand le soir fut venu, afin que nous reposassions plus à l'aise, le vieillard, notre hôte, ayant fait ôter tous les enfants d'auprès de nous, le matin à notre réveil, nous dit « Eh bien, alliés, avez-vous bien dormi cette nuit ?» À quoi lui étant répondu que oui, fort bien, il nous dit « Reposez-vous encore, mes enfants, car je vis bien hier au soir que vous étiez fort là. » Bref, il est malaisé d'exprimer la bonne chère qui nous fut lors faite par ces sauvages, lesquels, à la vérité, pour le dire en un mot, firent en notre endroit ce que saint Luc dit aux Actes des Apôtres que les barbares de l'île de Malte pratiquèrent envers saint Paul et ceux qui étaient avec lui, après qu'ils eurent échappé le naufrage dont il est là fait mention. Or, parce que nous n'allions point par pays, que nous n'eussions chacun un sac de cuir plein de mercerie, laquelle nous servait au lieu d'argent pour conserver parmi ce peuple, au départir de là, nous baillâmes ce qu'il nous plut, à savoir, comme j'ai tantôt dit que c'est la coutume, couteaux, ciseaux, pincettes aux bons vieillards, des peignes, miroirs et bracelets, des boutons de verre aux femmes, et des hameçons à pêcher aux petits garçons. Sur quoi aussi, afin de mieux faire entendre combien ils font cas de ces choses, je réciterai que moi, étant un jour en un village, mon moussaka, c'est-à-dire celui qui m'avait reçu chez soi, m'ayant prié de lui montrer tout ce que j'avais dans mon caramémo, c'est-à-dire dans mon sac de cuir, après qu'il m'eût fait apporter une belle grande vaisselle de terre dans laquelle j'arrangeais tout mon cas, lui, s'émerveillant de voir cela, appelant soudain tous les autres sauvages, il leur dit « Je vous prie, mes amis, considérez un peu quel personnage j'ai en ma maison. Car, puisqu'il a tant de richesses, ne faut-il pas bien dire qu'il soit grand seigneur ? Et cependant, comme je dis en riant contre un mien compagnon qui était là avec moi, tout ce que ce sauvage estimait tant, qui était, en somme, 5 ou 6 couteaux emmanchés de diverses façons, autant de peignes, 2 ou 3 grands miroirs et autres petite besogne n'eût pas valu 2 testons dans Paris, par quoi, suivant ce que j'ai dit ailleurs, qu'ils aiment surtout ceux qui sont libéraux. Me voulant encore moi-même plus exalté qu'il n'avait fait, je lui baillai publiquement et gratuitement, devant tous, le plus grand et le plus beau de mes couteaux. Duquel, de fait, il fit autant de compte que ferait quelqu'un en notre France auquel on fait présent d'une chaîne d'or de la valeur de 100 écus. Que si vous demandez maintenant, plus outre, sur la fréquentation des sauvages de l'Amérique, desquels je traite à présent, à savoir si nous nous tenions bien assurés parmi eux, je réponds que tout ainsi qu'ils haïssent si mortellement leurs ennemis, que comme vous avez entendu ci-devant, Quand ils les tiennent, sans autre composition, ils les assomment et mangent. Par le contraire, ils aiment tant étroitement leurs amis et confédérés, tels que nous étions de cette nation nommée Tuyupinambu, que plutôt pour les garantir et avant qu'ils reçussent aucun des plaisirs, ils se feraient hacher en 100 000 pièces, ainsi qu'on parle, tellement que, les ayant expérimentés, je me fierais et me tenais de fait l'or plus assuré entre ce peuple que nous appelons sauvage que je ne ferais maintenant en quelques endroits de notre France avec les Français déloyaux et dégénérés. Je parle de ceux qui sont tels, car quant aux gens de bien, dont par la grâce de Dieu le royaume n'est pas encore vide, je serais très marri de toucher à leur honneur. Toutefois, afin que je dise le pro et le contra de ce que j'ai connu étant parmi les Américains, je réciterai encore un fait contenant la plus grande apparence de danger où je me suis jamais trouvé entre eux. Nous étant donc un jour inopinément rencontrés 6 Français en ce beau village de Corentin, duquel j'ai déjà plusieurs fois fait mention ci-dessus, distant de 10 ou 12 lieues de notre fort, ayant résolu d'y coucher, nous fîmes partie à l'arc, 3 contre 3, pour avoir des poules d'Inde et autre chose pour notre souper. Tellement qu'étant advenu que je fus des perdants, ainsi que je cherchais des volailles à acheter parmi le village, il y eut un de ces petits garçons français, que j'ai dit du commencement que nous avions mené dans le navire de Rosé pour apprendre la langue du pays, lequel se tenait en ce village, qui me dit « Voilà une belle et grosse canne d'Inde. Tu es là, vous en serez quitte en payant. » Ce que n'ayant point fait difficulté de faire, parce que nous avions souvent ainsi tué des poules en d'autres villages, de quoi les sauvages, en les contentant de quelques couteaux, ne s'étaient point fâchés, après que j'eus cette canne morte en ma main, je m'en allai en une maison où presque tous les sauvages de ce lieu étaient assemblés pour câouiner. Ainsi, ayant là demandé à qui était la canne, afin que je la lui payasse, il y eut un vieillard, lequel, avec une assez mauvaise trogne, se présentant, me dit « C'est à moi. » « Et que veux-tu que je te donne ?» lui dis-je. « Un couteau, » répondit-il. Auquel, sur le champ, en ayant voulu bailler un, quand il l'eut vu, il dit « J'en veux un plus beau. » Ce que, sans répliquer, lui ayant présenté, il dit qu'il ne voulait point encore de celui-là. « Que veux-tu donc, lui dis-je, que je te donne ?»« Une serpe, » dit-il. Mais parce qu'outre que cela était un prix de tout excessif en ce pays-là de donner une serpe pour une canne, encore n'en avais-je point. Pour lors, je lui dis qu'il se contenta s'il voulait du second couteau que je lui présentais et qu'il m'en aurait autre chose. Mais là-dessus, le truchement qui connaissait mieux leur façon de faire, combien qu'en ce fait, comme je dirais, il fut aussi bien trompé que moi, me dit « Il est bien fâché. » Et quoi que s'en soit, il lui faut trouver une serpe. Par quoi, en ayant emprunté une du garçon duquel j'ai parlé, quand je la voulus bailler à ce sauvage, il en fit derechef plus de refus qu'il n'avait fait auparavant des couteaux. De façon que, me fâchant de cela pour la 3e fois, je lui dis « Que veux-tu donc de moi ?» À quoi furieusement il répliqua qu'il me voulait tuer comme j'avais tué sa canne. « Car, dit-il, parce qu'elle a été un mien frère qui est mort, je l'aimais plus que toute autre chose que j'eusse en ma puissance. » Et de fait, mon lourdeau, de ce pas, s'en allant quérir une épée, plutôt grosse massue de bois de 5 à 6 pieds de long, revenant tout soudain vers moi, continuait toujours à dire qu'il me voulait tuer. Qui fut donc bien ébahi, ce fut moi. Et toutefois, comme il ne faut pas faire le chien couchant comme on parle, ni le craintif en cette nation, il ne fallait pas que j'en fisse semblant. Là-dessus, le truchement, qui était assis dans un lit de coton pendu entre le querelleur et moi, m'avertissant de ce que je n'entendais point, me dit « Dites-lui, en tenant votre épée au poing et lui montrant votre arc et vos flèches, à qui il pense avoir affaire. Car quant à vous, vous êtes fort et vaillant, et vous ne laisserez pas tuer si aisément qu'il pense. » Somme, faisant bonne mine à mauvais jeu, comme on dit, Après plusieurs autres propos que nous eûmes, ce sauvage et moi, sans que les autres fissent autant semblant de nous accorder, ivre qu'il était du caouin qu'il avait bu tout le long du jour, il s'en alla dormir et cuver son vin. Et moi et le truchement en soupaient et mangeaient sa canne avec nos compagnons, qui nous attendant au haut du village, ne savaient rien de notre querelle. Or cependant, comme l'issue montra, les Touyoupinambous sachant bien qu'ayant déjà les Portugais pour ennemis, s'ils avaient tué un Français, la guerre irréconciliable serait tellement déclarée entre eux qu'ils seraient à jamais privés d'avoir de la marchandise, tout ce que mon homme avait fait n'était qu'en se jouant. Et de fait, s'étant réveillé environ 3 heures après, il m'envoya dire par un autre sauvage que j'étais son fils, et que ce qu'il avait fait en mon endroit était seulement pour éprouver et voir à ma contenance si je ferais bien la guerre aux Portugais et aux Margaïa, nos communs ennemis. Mais de mon côté, afin de lui ôter l'occasion d'en faire autant une autre fois, ou à moi ou à un autre des nôtres, joint que telles risées ne sont pas fort plaisantes, non seulement je lui mandais que je n'avais que faire de lui, et que je voulais point de père qui m'éprouvât avec une épée au poing. Mais aussi le lendemain, entrant en la maison où il était, afin de lui faire trouver meilleur et lui montrer que tel jeu me déplaisait, je donnai des petits couteaux et des hameçons à pêcher aux autres tout auprès de lui qui n'eurent rien. On peut donc recueillir, tant de cet exemple que de l'autre que j'ai récité ci-dessus, de mon premier voyage parmi les sauvages, où pour l'ignorance de leurs coutumes envers notre nation je cuidais être en danger, que ce que j'ai dit de leur loyauté envers leurs amis demeure toujours vrai et ferme, à savoir qu'ils seraient bien maris de leur faire des plaisirs. Sur quoi, pour conclusion de ce point, j'ajouterai que, surtout les vieillards, qui par le passé ont eu faute de cognées, serpes et couteaux, qu'ils trouvent maintenant tant propres pour couper leur bois et faire leurs arcs et leurs flèches, non seulement traitent fort bien les Français qui les visitent, mais aussi exhortent les jeunes gens d'entre eux de faire le semblable à l'avenir.